Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le Dave derrière le micral à la jactance et le Luca derrière les potards à la technique. On est en différé, les amis, comme d'habitude, à l'antenne d'RCN Radio Caraïbes Nancy, sur les ondes 90.7 FM et sur la toile www.rcn-radio.org, puisque vous pouvez les écouter émission censurée sur les deux supports. Voilà. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 1386e jour d'occupation Hollande au Val-Sommet des Fiennes, je le dis en serrant les dents comme ça un peu, je un peu vénère et complètement speed, vous allez comprendre pourquoi. Et également 117e jour d'occupation, d'état d'urgence. Faites chauffer la DeLorean, on retourne dans le passé, il y a 30 piges exactement, et ça démarre comme ça. Ouh, il y a du bruit. Ouh, il y a une émeute.
Ah. Mesdames et messieurs,
oh, mais c'est qui,
ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Ah oui, 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 il a une voix de gros porc, ça doit être un gros porc. Porcherie.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes malheurs des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffent, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires. Parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des singes conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde.
Vous remarquerez qu'on a les Queen Manport en stéréo. Voilà. Ceci étant dit, je préfère quand même largement bafouiller en début d'émission parce que ça va envoyer du lourd. Va y avoir beaucoup de blabla pendant l'heure qu'on va passer ensemble, les amis. Alors déjà, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées d'une part, évidemment d'RCN aussi, et également de Radio Campus Lorraine, puisqu'émission censurée est également rediffusée sur RCL. Les amis, le thème de le soir, eh ben vous l'avez déjà plus ou moins deviné, hein, je vous l'ai déjà plus ou moins explicité avant porcherie camarade. C'est la première fois que je vous passe la version studio de porcherie depuis 255 émissions censurées depuis maintenant en pleine 8e saison. Je vous ai évidemment passé plusieurs versions live, mais la version studio issue de l'album Concerto pour des traqués qui est sorti en 85, comme quoi pile poil on est dans le thème, et qui est sorti à l'époque chez Bondage Records et distribué par Neurose. Ça me paraissait un morceau évident pour tout de suite se mettre dans le contexte de l'époque. Alors évidemment, on est aujourd'hui le 9 mars 2016, j'ai un poil de retard, vous m'en excuserez certainement, parce que une émission comme ça, c'est un gros paquet de travail. Heureusement que je n'ai qu'une seule thématique comme ça sur toute la saison, sinon je pense que je démissionnerais illico presto d'RCN et d'émissions censurées. Donc voilà, alors va y avoir du lourd, ça va envoyer vraiment du méchant. L'album d'ailleurs a été enregistré, cet album mythique de Berrurier Noir, Concerto pour Détraquer, a été enregistré au studio WW par Philippe Windrich. Alors aussi bien le studio que le camarade qui enregistre et qui a mixé l'album sont ultra mythiques alternativement parlant, parce que Patrick Windrich dans son studio WW, on le retrouve sur un gros paquet d'albums de l'époque. Voilà, et Concerto pour Détraquer, si vous voulez tout savoir, il a été enregistré entre février et mars 85 et il est sorti en mars 85. Voilà. Donc alors ben les amis, voilà, nous voici donc en plein 30 piges, on retourne 30 ans en arrière, c'est le troisième double épisode, c'est reparti. Alors si vous avez loupé les épisodes précédents, alors sachez que évidemment il y a eu une petite rediff du premier épisode de l'année dernière pour se remettre un petit peu dans le bain. Donc si vous l'avez écouté, bah vous savez à quoi vous attendre ce soir. Si vous cherchez les autres, et sachez que on les retrouve dans les émissions 190, 191 sur la période de 75 à 83 et 221, 222. Qui nous ramenait donc en 84, année chère à George Orwell. Alors je vous propose donc, chers auditeurs, chères auditeuses, de nous pencher sur la suite des événements alternatifs en Landgrâce 1985. Le dernier épisode avait été tellement speed que j'ai même pas eu le temps de terminer l'émission comme j'aurais bien voulu la terminer, à savoir en nommant les groupes formés aussi en 84, mais dont on n'avait pas eu le temps de parler, jacté dans le précédent épisode, parce que le temps passe vraiment très très vite. Donc en 84, il y a les Shérifs, il y a les Vierges, il y a Tête Raide et Massilia Sound System. Voilà, c'était quand même important d'être noté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'hab, les amis, petit rappel géopolitique, tic tic, pour bien se remettre dans le contexte de l'époque, je vous préviens, ça va être long, mais ça va chier. En 1985, dans un monde toujours en pleine guerre froide, coupé en deux de chaque côté du rideau de fer, soit le bloc de l'Ouest néo-capitaliste d'une part et le bloc de l'Est post-stalinien de l'autre. En URSS, justement, après exactement un an et 25 jours au pouvoir, le sémillant Konstantin Tchernenko décède à Moscou le 10 mars 85, à l'âge respectable de 74 piges. Dès le lendemain, lui succède Mikhail Gorbatchev, un gamin à peine âgé de 54 ans, jeune apparatchik bureaucrate et résolument réformateur, élevé sous l'aile protectrice de son mentor Yuri Andropov. Gorbatchev devient donc le nouveau, je respire parce que c'est long, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Ouf, ça c'est du titre. Dès son arrivée à la tête du Parti unique, et afin d'assurer son pouvoir, il vire tous les vieux croutons fidèles aux ancestraux principes bolchevico-marxo-léninistes. Voulant dépoussiérer le système soviétique pour mieux le sauver, les réformes de Gorbatchev tiennent en deux mots. Le Prums, Perestroïka. Vous aurez remarqué un peu la tentative d'accent. Perestroïka, autrement dit la restructuration de l'économie nationale. Et le deuxième, Glasnost, c'est pas facile, le russe, je suis désolé. Glasnost, donc, à savoir la transparence dans les affaires politiques et culturelles. Bref, en tentant d'insuffler une nouvelle jeunesse à l'économie de l'URSS par de profondes réformes structurelles qu'il estime indispensables pour tenir tête au camp occidental d'en face, Gorbatchev s'engage vers la fin de la guerre froide à l'extérieur des frontières de l'Empire et il lance à l'intérieur la libéralisation économique. Mais tout en restant attaché à une économie planifiée par le parti, donc l'État, en y introduisant subtilement des éléments de marché, comme ça, par-ci, par-là. En gros, et en résumé, introduire petit à petit le loup libéral dans la bergerie soviétique. Fine stratégie, qui part certainement d'un bon sentiment, mais qui aboutira 4 ans plus tard au résultat que l'on sait. Et pendant ce temps, en Afghanistan, l'armée Ruskov et ses quelques 120 000 soldats est toujours empêtrée dans un bourbier sanglant et inextricable qui dure depuis maintenant 6 ans. Et même si l'armée rouge parvient à contrôler les villes et routes principales du pays, Les 80% restants sont toujours aux mains des Moudjahidines, les islamistes résistants à l'occupation soviétique grâce au soutien logistique du Pentagone et Barbouzard de la CIA. À tel point que Gorbatchev commence à émettre l'idée et le principe d'un retrait des troupes russes d'Afghanistan. Et enfin, pour finir avec l'URSS, c'est le 19 novembre qu'aura lieu le sommet de Genève, amorçant une coopération entre les États-Unis et l'URSS, à la suite duquel Gorbatchev lancera un programme de décentralisation des décisions économiques. La même année, aux États-Unis d'Amérique du Nord, Ronald Reagan, ancien blâtre d'Hollywood et fervent partisan d'un macartisme actif, et activiste, fier de dénoncer au FBI de l'époque un paquet de ses confrères qu'il soupçonnait de sympathie communiste. Ronald Reagan, ancien gouverneur de Californie de 1967 à 75, où il réprima gaiement sous les coups meurtriers de la garde nationale les mouvements étudiants de protestation contre la guerre du Vietnam et pour la liberté d'expression, pour, je cite, « faire un grand nettoyage à l'université de Berkeley ». Ronald Reagan, donc, après une victoire écrasante aux élections présidentielles de la fin de l'année précédente, où il remporte 49 États sur 50 avec 59% des suffrages exprimés, prête donc serment sur la Bible le 20 janvier à l'âge respectable de 74 ans pour enquiller son second mandat. Considérant dans ses déclarations publiques l'URSS comme l'empire du mal, il n'aura de cesse de soutenir tous les mouvements anticommunistes du monde entier, renonçant à la politique de détente par l'augmentation massive des dépenses militaires et la relance de la course aux armements avec le bloc soviétique, mais négociera néanmoins avec Gorbatchev pour réduire les arsenaux nucléaires par l'intermédiaire du traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Dans le même temps, dans leur cours de récréation sud-américaine, les États-Unis proposent un plan de paix pour l'Amérique centrale, c'est le nom officiel. Plan de paix tout relatif, puisqu'il s'agit clairement ici d'éliminer les sandinistes, ces dangereux révolutionnaires du Nicaragua d'obédience marxiste qui ont renversé la dictature de la riche dynastie des Somoza en 79, et dont Daniel Ortega, secrétaire général du FSLN, Front Sandiniste de Libération Nationale, remporte les élections présidentielles en novembre 84 avec 63% des voix, ce dont l'administration Reagan refuse de reconnaître les résultats légitimes. Après avoir miné, vous savez, des grosses mines comme ça dans l'eau, hein, après avoir miné les ports du pays, opération Piranha, l'année précédente, les USA, dans leur grande bonté, décrètent l'embargo économique contre le Nicaragua, exercent sur le régime sandiniste une pression militaire par le biais de la CIA qui finance, arme, entraîne et approvisionne les fameuses Contras, les milices paramilitaires contre-révolutionnaires. Résultat des courses, durcissement du régime sandiniste, suspension des libertés fondamentales et déclenchement d'une guerre civile qui durera jusqu'en 90 et fera 57 000 victimes, dont 29 000 morts. Enfin, pour en finir avec les States, le 22 octobre à Séoul, afin de résoudre la crise de la dette des pays les plus pauvres, les États-Unis lancent le plan Baker, du nom du secrétaire au Trésor américain, consistant à renforcer et ajuster le financement bancaire privé des pays fortement endettés, la liaison est dangereuse, en suivant les prescriptions habituelles du FMI et de la Banque mondiale, dont finalement les banques se foutent royalement. Bref, je vous passe les détails, mais c'est un échec sur toute la ligne, ce qui ne surprendra personne. Oh, cynisme quand tu nous tiens à parler. Et pendant ce temps-là, dans le monde, eh ben, il s'en passe des vertes et des paumures. Le 20 juillet, en Afrique du Sud, le régime de Pretoria en place depuis 1948 instaure l'état d'urgence en réponse aux nombreuses et sanglantes insurrections des ghettos noirs contre ce régime africaneur blanc, fondamentalement raciste et virulemment anticommuniste, donc soutenu en toute logique par le bloc occidental, USA, Angleterre, France, gaulliste, giscardienne et le péniste, et bien sûr Israël, qui ne voit dans l'application virulente de l'apartheid qu'un prolongement cohérent de leur propre politique de ségrégation raciale. On y reviendra en détail plus tard, une autre fois. Au Proche-Orient, c'est pas triste non plus. Un accord jordano-palestinien est signé le 11 février. L'OLP, Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, lui-même fondateur du Fatah, Mouvement de Libération de la Palestine, reconnaît toutes les résolutions de l'ONU et propose, entre guillemets, la terre contre la paix. L'accord appelle à une conférence internationale composée de 5 membres du Conseil de sécurité et de toutes les parties prenantes au conflit, y compris l'OLP. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale, Likoud et gauche, paralyse la réaction d'Israël, dont le Premier ministre Shimon Peres envisage favorablement l'action jordanienne et propose un règlement par étapes avec une période intermédiaire où la Jordanie et Israël géreront les affaires palestiniennes en liaison avec une assemblée élue. Oh, c'est chaud. Hein. Malheureusement, la crise de Sigonella va interrompre, ça n'a rien à voir, même si ça commence pareil, interrompre cette nouvelle tentative de paix, prout. La crise de Sigonella, mais c'est quoi cette bestiole-là? Eh ben, en représailles à l'opération Jambe de Bois du 1er octobre, qui voit l'armée de l'air israélienne bombarder le quartier général de l'OLP réfugié à Hammam Shott, en Tunisie, faisant 68 morts, mais ratant Arafat une fois de plus. C'est pas le premier attentat, la tentative d'assassinat auquel il échappe, Arafat. Le 7 octobre, 4 soldats palestiniens se réclamant de l'OLP décident de faire entrer un commando en Israël en utilisant un bateau comme moyen de transport pour lancer une attaque contre une base militaire israélienne. Ce bateau, ce sera le paquebot de croisière italien à Chile Lauro. Mais l'opération foire sur place et la situation dégénère franchement. Il décide donc de détourner le bateau, tue un passager handicapé de nationalité ricaine, et de confession juive, Leon Klinghoffer, et menace de faire sauter le boxon et sa bonne centaine de passagers si leur exigence de libérer une cinquantaine de leurs compagnons détenus dans les prisons israéliennes n'est pas acceptée. Après 2 jours d'âpres négociations entre Bettino Craxi, président du Conseil italien, Abu Abbas, fondateur, du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, et le gouvernement d'Égypte, où le paquebot finira par accoster à Port Saïd, les preneurs d'otages se rendent et libèrent tout le monde avant d'être extradés dans un Boeing 737 d'Égyptair en partance pour la Tunisie, puis vers l'Italie pour y être jugé. Mais Reagan ne l'entend pas de cette oreille et, sans prévenir qui que ce soit, fait détourner l'avion en question par des chasseurs, vous savez, les gros avions à réaction, les chasseurs de l'US Navy, sur la base Yankee de Sigonella, en Sicile. Nous y voilà. Gros pataquès diplomatique. Sur place, autour de l'avion, les soldats italiens et ricains sont à 2 doigts de s'entretuer joyeusement pour récupérer les terroristes. Pour Craxi, les crimes ayant été commis sur le territoire italien, le bateau, donc, c'est à l'Italie de statuer. Et finalement, Reagan, après moult et moult pressions, cède et retire ses hommes de Sigonella. Fin de l'histoire, mais également fin du fragile processus de paix enclenché plus tôt et reprise du cercle vicieux et infernal et éternel de cette foutue loi du talion. Caramba, encore raté. À part ça, dans le même coin du monde, le Liban, toujours en proie à une guerre civile terrible enclenchée en 75 et dont Israël est grandement responsable, continue à s'enliser dans le pire du pire et Beyrouth ressemble, gravos, à un gruyère avarié. Nouveau rebondissement du conflit, le détournement du vol TWA-847 du 14 juin reliant Athènes à Rome par des membres du Hezbollah, groupe islamiste chiite, libanais pro-iranien, qu'on ne présente plus. Une prise d'otage ubuesque. La quarantaine de passagers états-uniens ne seront libérés qu'après 3 semaines passées dans l'avion qui aura voyagé plusieurs fois entre Beyrouth et Alger contre la libération de 700 prisonniers chiites détenus en Israël, obligés par les USA d'accepter les revendications du Hezbollah. Donc, les 700 prisonniers seront effectivement libérés. À Beyrouth, c'est aussi l'année où ont lieu des enlèvements retentissants revendiqués par le djihad islamique. Le 22 mars d'abord, celui de 2 diplomates français, Marcel Carton et Marcel Fontaine. Puis le 22 mai, celui de Jean-Paul Kaufmann, journaliste, et de Michel Seurat, sociologue, dont on verra les 4 visages plusieurs fois par jour en introduction de tous les JT de France. Et ce, jusqu'au 4 mai 88, jour de leur libération, après environ, accrochez-vous, 1130 jours de captivité au total, sauf pour Michel Seurat qui n'y survivra pas. Mais le Proche-Orient, c'est aussi le pétrole. Eh ben ça tombe bien, 85 connaît un reflux des prix du brut, c'est l'heure du deuxième choc pétrolier. L'Arabie Saoudite, ulcérée de voir grignoter ses parts de marché par les autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui ne respectent pas leurs quotas, change de politique. Elle abandonne le soutien des prix et se préoccupe désormais des volumes de production grâce à la signature de contrats qui garantissent aux raffineurs un montant donné par baril, la part du royaume wahhabite variant en fonction du prix. En quelques mois, le prix du baril chute de 31,75 à $10. Les États producteurs essuient de lourdes pertes financières. Les États-Unis s'inquiètent de ce que les cours trop bas découragent la prospection sur leur sol et les contraignent à dépendre davantage des importations, ce qui affaiblit leur sécurité face à l'Union soviétique qui, elle, est exportatrice. Un prix voisin de 18 dollars au lieu des 29 officiels semble équitable. L'OPEP abandonne la stratégie des parts de marché et revient au quota. Et à la fin de 1986, les conséquences du deuxième choc pétrolier sont effacées. La croissance économique en est stimulée. Tout peut reprendre joyeusement. Jusqu'à la prochaine, le monde est heureux. Youpi ! Plus proche de nous, les amis, en Europe. C'est pas mal non plus. Quelques dates en vrac. Alors, le 5 mars. 5 mars, échec et fin de la longue grève des mineurs au Royaume-Uni après plus d'un an de lutte, de grève et de manifs. Thatcher a gagné la guerre, les syndicats sont moribonds, les ouvriers laminés. Sans aucune alternative possible, le marché du travail anglais peut donc se libéraliser en toute quiétude. Le 29 mai, c'est la date du drame du Wesel. À savoir une émeute mortelle au stade du Wesel à Bruxelles lors de la finale de la Coupe d'Europe de football opposant le Liverpool Football Club à la Juventus de Turin, provoquée par des hooligans british et qui fait 39 morts et plus de 450 blessés. Le 12 juin, l'Espagne et le Portugal signent leur adhésion à la CEE. Bienvenue dans l'Europe libérale, les Ibériques. Ceci expliquant ça, deux gros conflits populaires éclatent en Espagne, dus à la précarité de l'emploi et aux inégalités sociales. Le 14 juin, deux jours plus tard, signature du premier accord de Schengen par les ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, de Belgique, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas. Il s'agit d'accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles à leurs frontières communes. Ah, quand Schengen était synonyme d'ouverture de frontières, mais seulement pour ses propres ressortissants, il faudrait quand même pas déconner non plus. Le 28 septembre, à Brixton, c'est intéressant ça, Brixton, 28 septembre, de nouvelles émeutes éclatent après le tir accidentel d'un policier sur Cherry Gross, d'origine jamaïcaine, mère d'un suspect recherché. Mort aussi d'un journaliste blessé par des pilleurs. Et ces émeutes du 28 septembre seront suivies le 6 octobre par d'autres émeutes restées connues sous le nom de Broadwater Farm Riots, du nom de la cité où elles commencèrent, et qui débutent à Tottenham après la mort d'une femme noire de 49 ans, décédée d'une crise cardiaque lors d'une perquisition de la police à son domicile. L'Afrique du Sud, c'est loin, mais seulement géographiquement. Bon, le monde, bon, c'est bien joli, hein, mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc dans notre merveilleuse patrie, berceau autoproclamé des droits de l'homme et de l'univers ? Eh ben, l'année commence gaiement. Le 25 janvier, avec l'assassinat du général René Audran, glorieux directeur des affaires internationales de la Délégation Générale pour l'Armement du ministère de la Défense, ça aussi c'est du titre, en charge des ventes d'armes à l'Irak, alors en pleine guerre contre l'Iran. Un assassinat immédiatement imputé au groupe d'extrême gauche Action Directe, qui va encore sévir, jusqu'en 1997, mais en fait qui aurait été planifié en direct de Téhéran par les gardiens de la révolution iranien, pas content du tout du business d'armes entre la France et l'Irak. La semaine précédente, le 14 janvier, un décret de Laurent Fabius, Premier ministre depuis l'année dernière, confère au haut commissaire de la République, Edgar Pisani, des pouvoirs extraordinaires qu'il exercera en application de la loi du 3 avril 1955 qui fixe le régime de l'état d'urgence. État d'urgence ? En métropole ? Non, juste en Nouvelle-Calédonie, joviale et lointaine colonie française en pleine montée vindicative d'indépendance. Suite à la dissolution du Front indépendantiste et à la création du FLN-KS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, dirigé par Jean-Marie Djibaou, et dont la première action fut de boycotter les élections territoriales de novembre 84, déclenchant ainsi les événements pendant lesquels se confrontent violemment partisans et opposition à l'indépendance, d'où l'état d'urgence décrété. De mars à décembre, les violences sont à leur apogée, des affrontements se succèdent jour et nuit sur l'ensemble du territoire, dans un climat de quasi-guerre civile avec assassinats, incendies, grèves, manifestations, barrages, plasticages, sabotages, arrestations et opérations militaires. Le 14 juin, le couvre-feu est levé et le 30 juin, l'état d'urgence prend fin, alors qu'en même temps, le FLNKS déclare unilatéralement l'indépendance de l'île, qui ne sera jamais effective, et adopte aussi une constitution qui ne sera du coup donc jamais appliquée non plus. Le 29 septembre sont alors organisées les premières et seules élections territoriales du statut Fabius Pisani. Le FLNKS, contrairement à 84, y participe, ainsi que le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, un joujou de la droite chiracienne et virulemment anti-indépendantiste, qui n'y remporte d'ailleurs qu'une seule région, celle du Sud. Le calme revient en Nouvelle-Calédonie, mais il sera de courte durée. Petit retour en métropole pour les deux tours des cantonales, les 10 et 17 mars, où la gauche gouvernementale, ou du moins ce qu'il en reste, se prend une nouvelle veste dans les urnes. À force de la retourner, et ben voilà ce qui arrive. Et goûte aussi à la saveur d'une défaite loin d'être surprenante. Hein, ça nous rappelle des choses. Voilà, le 4 avril, Michel Rocard, alors ministre de l'Agriculture, démissionne du gouvernement par rapport à l'adoption du scrutin proportionnel pour les élections législatives qui va permettre l'entrée du Front National au Parlement. Personne ne trouve rien à y redire, tout le monde politique s'en branle comme de son premier pot de vin. Bref, bye bye Michel et à la poche pleine. Et nous voici de nouveau en partance, on voyage, pour des contrées exotiques à l'autre bout du monde. Où ça ? Eh ben, en Nouvelle-Zélande. Quand ça ? Eh ben, le 10 juillet, vous êtes curieux, j'aime bien. C'est ce jour-là qu'on apprend l'explosion du Rainbow Warrior, navire amiral ô combien emblématique du groupe écologiste Greenpeace. Bateau hacké dans le port d'Auckland, pareil à appareiller, c'est joli ça dans l'illustration, pareil à appareiller vers l'atoll de Mururoa pour protester contre la reprise des essais nucléaires français. Explosion qui se révélera à une vitesse fulgurante être le fait d'une magnifique opération barbouzarde de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, plus connue sous l'acronyme DGSE, les Glorieux Services Secrets Français en charge du renseignement extérieur, Cocorico. Ce bien triste naufrage, aussi bien du bateau que de l'opération d'ailleurs, fait un mort, Fernando Pereira, photographe et membre de l'équipage de Greenpeace. Le scandale ne traîne pas, deux jours plus tard a lieu l'arrestation de deux agents secrets français, les faux époux Turange, par la police néo-zélandaise. Le 20 septembre, c'est la démission de Charles Hernu, ministre de la Défense, et de l'amiral Pierre Lacoste, patron de la DGSE. Deux fusibles très haut placés, mais quand même très bien pratiques, à faire sauter pour couvrir le vrai commanditaire, François Mitterrand, dont l'autorisation explicite a permis cet immense gâchis. Le 22 novembre, ce sont les faux époux Turange, mais vrais agents secrets de la DGSE, Alain Maffard et Dominique Prieur, qui seront condamnés à 10 ans de prison pour homicide involontaire. Et tout ça pourquoi ? Eh ben pour la gloire de la France et la puissance de sa dissuasion atomique. C'est beau comme l'antique. Et en plus ça rime. Le 31 juillet, le gouvernement français autorise la création. Alors rien à voir, hein ? Là on retourne en métropole. Donc le 31 juillet, gouvernement français qui autorise la création de chaînes privées de télévision. Ça paraît de rien comme ça, mais c'est important pour la suite des événements médiatiques et financiers, surtout concernant un certain mania du béton, entre autres. En 85, le déficit public se couche à moins 3% du PIB, le chômage atteint la barre symbolique des 10% de la population active. C'est l'échec cuisant des nombreux programmes d'aide au retour à l'emploi et le vote des premières lois de libéralisation économique avec levée du contrôle gouvernemental sur les prises industrielles, amorçant le désengagement et le démantèlement progressif de l'État pour le grand bonheur des plus grosses fortunes industrielles françaises et de leurs chers, très chers actionnaires. L'État, en recherche de liquidités immédiates, se lance dans la vente sur le marché boursier de certaines de ses participations dans des entreprises. Les résultats de cette tactique de haut vol sont de promptes recettes d'environ 70 milliards de francs, mais inexorablement, la misère ne cesse de gagner du terrain sans qu'aucune réforme gouvernementale n'y puisse rien. L'aveuglement et l'autisme du monde politicard ont encore des décennies de beaux jours devant eux. Entre guillemets, l'austérité, de l'époque, se nommant, entre guillemets aussi, la rigueur. Simple question de rhétorique novlanguienne avec les résultats que l'on sait, avec ses très rares gagnants d'un côté et son lot inévitable de trop nombreux perdants de l'autre, hier comme aujourd'hui. Là. Ce qui nous fait donc logiquement arriver à 1985, nouvelle grande année coluchienne. Nouvelle parce que c'est loin d'être la Prums, mais tragiquement pas loin d'être la dernière. Les conséquences de la campagne de l'élection présidentielle de 81, pendant laquelle Coluche s'était présenté entre Giscard et Mitterrand pour leur foutre au cul, s'en étant retiré par la force des choses et qui lui a coûté quand même aussi cher professionnellement que personnellement. 3 ans C'est donc le temps qu'il lui aura fallu à Coluche pour s'en remettre et retrouver sa gouaille, rouvrir sa gueule et revenir sur le devant de la scène. Ou plutôt au-delà de la scène. Coluche, le grand retour, accrochez-vous. Il revient, en l'occurrence, le 15 octobre 84, en participant à la création de SOS Racisme avec Harlem Désir, une manière pour lui de s'engager à la suite de la marche des beurs de l'année précédente, dont il n'a été que témoin. En mars 85, il lance avec son pote Renaud et quelques autres l'association Chanteurs sans frontières et sortent le maxi 45 tours SOS Éthiopie, disque qui s'est rapidement vendu à plus d'un million d'exemplaires et qui a rapporté plus de 10 millions de francs, 1,5 million d'euros, c'est déjà pas mal, reversés à l'association Médecins sans frontières. Et finalement, le cumul des ventes du disque aura dépassé les 24 millions d'exemplaires en tout. Malgré la sincérité indiscutable et la beauté remarquable de la démarche, imaginez ça aujourd'hui, Coluche et tous ses potes créent ainsi à eux seuls le charity business à la française. Dans le même temps, Coluche reprend aussi la radio en juillet, il y en aura pour tout le monde sur Europe 1 avec Maryse, et la télé en octobre, Coluche Info sur Canal+. Le 25 septembre, il organise un gigantesque canular en se mariant avec Thierry Leluron, pour le meilleur et pour le rire, dans une parodie fantasque et haute en couleur, sauf pour la mariée qui est en blanc et qui est Coluche, évidemment. Donc une parodie du très coûteux et médiatique mariage d'Yves Mourouzi. Bonsoir. Vous vous souvenez, je sais pas si les plus mûrs d'entre vous se souviendront évidemment d'Yves Mourouzi. À travers une vision, revisitée et avant-gardiste du mariage homosexuel. Alors ça, c'est Wiki qui le dit. Voilà. Bon, bref, 4 jours après la nuit de noces, le 29 septembre, Coluche défonce le record du monde à moto de vitesse du kilomètre lancé sur piste, atteignant 252,087 km/h, record du monde qui sera jamais battu en respect à sa mémoire. Entre ces deux dates, il y en aura une plus historique encore, le 26 septembre, après mûre réflexion et en même temps que l'élaboration de son prochain spectacle, Coluche conçoit et lance le projet des Restos du Cœur à l'antenne d'Europe 1 et balance en direct. J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. Il y a des gens qui sont intéressés pour sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris. Nous, on est prêt à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2000 à 3000 couverts par jour. Fin de citation. Pour lui, Comme il l'expliquera à la télé quelques jours plus tard chez son pote Michel Drucker, si ma mémoire est bonne, il s'agit de mettre l'État devant ses propres incohérences, reniements et autres incompétences, mais surtout devant ses propres responsabilités. Les Restos du Cœur, association de loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, n'ont pas vocation à perdurer, mais bien à soulager dans l'urgence une misère sociale intolérable et scandaleuse en dénonçant un manquement flagrant et un vide béant dont la solution ne devrait être que du ressort de l'État. Et là, sacré pavé dans la mare, non ? La première campagne des Restos du Cœur se déroulera du 14 décembre 85 avec l'ouverture du premier resto jusqu'au 21 mars 86, jour de la fermeture annuelle. Lors de ce premier hiver, plus de 5000 bénévoles distribueront 8,5 millions de repas. 2015, l'hiver n'est pas fini, mais tout le long du précédent, 30 ans plus tard, 130 millions de repas distribués par 67 600 bénévoles à 1 million de personnes accueillies. Conclusion, comme le disait Pierre Desproges, autre excellent pote de Coluche, étonnant, non ?
Le tonnerre ronde. Les petits gens sont dans la rue et ont craché leur haine au prince déchu. Arriba España, abajo la tiradura. Arriba España, abajo la tiradura. S'est arrêté sur le port abandonné par les dockers. Les portières se sont ouvertes, laissant s'échapper un conte de fées. Arriba España, abajo la tiradura. Arriba España, abajo la tiradura. Les nœuds de sa prison sont enflammés. Visage cire défend la chaleur sous le regard d'un œil dévastateur. Arriba España, abajo la tiradora. Arriba España, abajo la tiradora. Défend la chaleur sous le regard d'un œil dévastateur. Arriba España, abajo la tiradora. Arriba España, abajo la tiradora.
Ah, bah excusez-moi. Oh, mais... oh là là, c'est fou. J'ai même pas pris le temps de boire une petite gorgée de flotte pendant le morceau, parce que alors là, j'ai la langue du chameau avec tout. Il nous reste même pas 20 minutes de... si, un petit peu plus de 20 minutes d'émission. Bon, voilà, je vous avais prévenu, hein. J'espère que je me suis pas fait chier pour rien et que c'est quand même ultra intéressant, au moins que vous avez appris au moins autant de choses que j'ai pu apprendre en préparant au moins cette longue, très très longue, mais très très complète aussi introduction. Voilà, donc alors, le groupe qu'on vient de s'écouter, on va rentrer effectivement maintenant dans le vif du sujet, le groupe qu'on vient de s'écouter, il s'appelle Nuclear Device. Le morceau, je vous le présente en vitesse, s'appelle Arriba España Abajo la Dictadura. Il est extrait du tout premier maxi 45 tours qui contient 4 titres de Nuclear Device. Ce maxi 45, il est sorti en décembre 85. Il s'appelle 45 révolutions par minute. Il est sorti chez Bondage Records, distribué par New Rose. Sachant aussi que je voulais absolument vous parler, avant qu'on rentre dans la présentation et l'historique un petit peu du groupe, les Nuclear Device ont sorti un petit bouquin, un gros bouquin l'année dernière, qui s'appelle aussi 45 révolutions par minute, le livre. Il est sous-titré Nuclear Device 1982-1989, histoire d'un groupe rock alternatif. Il contient aussi un CD de 20 titres qui est fourni dans le livre. Livre qui a été écrit par Daniel Cheribibi, Paris Clavel et Patrick Kioxcard, et qui est paru, si vous le recherchez, aux éditions Libertalia et la boîte à outils. Il fait 174 pages, il coûte 25€ et il est sorti en octobre 2015. Vous savez tout, vous savez tout. Alors, Nuclear Device, entre parenthèses ND, c'est comme ça qu'on les appelait aussi. Alors, comme la dernière fois, on va faire un rapide coup d'horizon sur la formation d'origine, dans laquelle on retrouve Pascal Card au chant, Patrick Kiox à la guitare, remplacé par Schéma en 88, Charlu Ombre à la basse, Charlu Ombre qui rejoindra Ludwig von 88 en 90, Chris Maresco à la batterie, Jean-Marco Saxo à partir de 84. Nuclear Device, ils viennent du Mans, formation en 83, séparation en 90, d'après ce que j'avais noté, mais ça ne correspond pas au sous-titre du bouquin, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez suivi les derniers épisodes, sachez que toutes les sources à partir de maintenant, les sources précédentes, c'était quand même beaucoup Internet, Wikipédia, vous en doutez bien. À partir de maintenant, les sources, c'est exclusivement le bouquin Niark Niark, sous-titre Fragments des scènes punk et rock alternatif en France 1976-1989, un bouquin pété d'interviews dont je vais vous lire quelques petits morceaux choisis. Donc bouquin d'Arnaud Rootboy qui est sorti aux éditions Zone et Folklore de la Zone Mondiale en novembre 2007. Voilà, alors cette interview, ces morceaux choisis d'interview de Patrick Kiox qui date du 13 novembre 2006 et qui a donc été interviewé par Arnaud Rootboy. Alors ça commence comme ça, voilà. Alors Nuclear Device dans sa version définitive, c'est 83. Avec Chris, on était fan des Stranglers, d'où le nom du groupe qui fait référence à la chanson Nuclear Device sur l'album The Raven en 79. En 80, ça a été une grosse claque pour nous de les voir sur scène. À 15 ans, on était déjà pas mal imprégnés de la culture punk grâce à ce groupe. Entre autres. Donc 82, c'est le moment où le groupe se forme. Chris avait déjà fait du tambour dans la fanfare d'Alonne, où on habitait, en banlieue du Mans. Et moi, je grattais avec la méthode à Daddy. Logiquement, il a pris la batterie, moi la guitare et mon frangin, le feignant, sa voix. Il y avait tellement de complicité entre nous, Pascal, Chris et moi au départ, que si on n'avait pas fait un groupe, ça aurait été forcément autre chose. Un canard, du théâtre... on a fait un premier concert dans la rue sous le nom de Nuclear Device pour la première fête de la musique, le 21 juin 82, avec une formation non définitive. Rapidement, on a rencontré Charlu, qui était un peu plus vieux et qui jouait déjà dans un groupe de reggae local. Ensuite, on a fait un petit concert au lycée et l'année d'après, on devait refaire le même concert et là, le lycée n'a pas donné son autorisation. C'est là qu'on a fait nos premières armes en communication visuelle. On avait placardé le lycée avec une affiche du concert prévu, barré en gros par la mention « concert interdit par l'administration du lycée ». Le visuel de l'affiche, c'était trois gardes civils. On était déjà bien fixés sur la guerre d'Espagne, le franquisme, les brigades internationales, c'était déjà des choses qui nous parlaient beaucoup. Je te raconte pas le tollé dans le lycée et le concert a été annulé. Jean-Marc, lui, rencontre le groupe dans l'année et c'est le coup de foudre. C'est le début, le vrai début de Nuclear Device. On avait 16-17 piges quand on a commencé la musique, on était des jeunes bien énervés et bien enragés. L'influence espagnole, ça vient de notre éducation, du milieu dans lequel on vit. Des parents militants, c'est aussi l'époque des derniers garrotés en Espagne, la révolution au Nicaragua. On a aussi lu des choses sur la guerre d'Espagne, les brigades internationales. Bref, quant à une sensibilité politique de gauche, l'Amérique latine, la guerre d'Espagne, c'est des ressources énormes qui te nourrissent, qui alimentent tes utopies. Il y avait des groupes dans la scène française comme les Olivenstein, Metal Urbain, Orchestre Rouge, qui étaient des références pour nous. Pour le reste, on était plutôt branchés sur l'Angleterre et la Jamaïque. On écoutait des groupes punk ou skin, comme UK Subs, Discharge, Angelic Upstarts, les Outcasts, c'est pas facile à dire, hein, tout ça, et surtout beaucoup de reggae, de rocksteady. Rapidement, on a bifurqué vers les groupes de ska, la scène two-tone, la musique noire et les groupes de punk qui s'ouvraient à d'autres univers comme les Clash, les Ruts, les Slits. On a découvert la scène parisienne quand on a rencontré les Brigades et Rock Radical Records. On a commencé à monter sur Paris et à se connecter naturellement avec le réseau alternatif. Dès le début, on fait nos propres compos et toujours 2-3 reprises en concert. Donc dès la fin d'un concert tremplin, les Brigades nous proposent d'enregistrer sur Rock Radical Records, leur propre label. On se sentait pas tout à fait prêt musicalement, alors on leur a demandé un petit peu de temps. On les a recontactés 6 mois ou 1 an après pour leur dire qu'on était enfin ok. On n'avait pas assez de morceaux pour faire un album, alors on a sorti un maxi, 45 révolutions par minute. On l'a enregistré au studio WW, quai de la gare, avec Patrick Coindrich, en une semaine. en une petite semaine, mixage compris. Kid Bravo, qui a produit tous nos disques, était exigeant. Il trouvait qu'on jouait quand même mal. C'est vrai qu'on était des mauvais musiciens. On lui disait ouais, on est punk. Dès qu'on a su faire deux accords, on a fait un autre groupe, quoi. C'est normal, quoi. Et là, il aimait pas, il nous répondait que les Brigades, c'était aussi du punk, et c'est vrai que c'était des bons musiciens par rapport à nous. C'était notre première expérience de studio, pas toujours évidente, mais on se marrait bien quand même. Il y avait une bonne ambiance entre nous tous. En 90, on arrivera chez Bondage, on restera chez eux du début à la fin. On était avec eux, c'était nos potes, la question se posait même pas de changer. Comme on n'était pas sur Paris, on se rencontrait au moment des concerts et des enregistrements, et quelques fois aussi pour les réunions. Je pense qu'ils se voyaient beaucoup plus avec les groupes parisiens. C'était Chris qui portait la casquette de manager et qui se déplaçait souvent à Paris. À l'époque, jamais question de contrat d'ailleurs. Tous les aspects techniques qui peuvent exister aujourd'hui pour l'édition d'un disque étaient carrément inexistants pour nous. Personne des deux côtés ne cherchait à clarifier les choses. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais on s'en foutait. Ça nous venait même pas à l'idée. Aucun de nous n'avait de connaissances en graphisme. On avait une sensibilité par rapport à l'image, mais aucun savoir-faire. C'était l'époque du système D dans tous les sens. Les choses se faisaient quand même. On était complètement influencés par le courant constructiviste. On adorait jouer sur ces registres. On découpait, on utilisait des vieilles typos en bois. On imprimait tout nous-mêmes. On découpait, on faisait de la photocop. On était fils de militants PC. Alors, donc, de temps en temps, on allait faire des collages avec notre père. Et à l'époque, c'était le collectif Grappus qui concevait les affiches, entre autres pour le Parti communiste. Grappus, c'était des graphistes militants qui faisaient des affiches sublimes. On avait été confrontés à des images de lutte percutantes et intelligentes. Et on faisait aussi pas mal de pochoirs dans la rue. C'était chaud parfois. On personnalisait nos fringues, nos guitares, des punks quoi. On avait déjà une bonne expérience du fanzina aussi en 81 au lycée. On était déjà dans ma piole avec une Renéo à l'essence en train de faire un fanzine qui s'appelait « Parle à mon cul, ma tête est malade », qui était un fanzine très punk, un truc très très déconne. Une des toutes premières affiches du groupe est née d'une rencontre avec une imprimerie militante du Mans. On est allé les voir en leur disant « Ouais, on a besoin d'affiches, on n'a pas de thunes, mais par contre on est cinq et on est plutôt dégourdi de nos mains. Est-ce qu'on pourrait pas faire un troc, genre retaper les locaux, tout ça, tout ça ?» Et les mecs nous ont trouvé sympa et nous ont dit « Ok, refaites-nous la façade en blanc et on vous imprime 2000 affiches. » On a beaucoup joué pour le scalp. Je me souviens d'un concert avec eux où la buvette du concert devait contenir une douzaine de cocktails Molotov prêts à l'emploi en cas d'attaque des fachos. On était forcément sensible à la montée du FN, on suivait ça de près. On était plus qu'agacés de voir à la gauche le Parti communiste minimiser la chose. En 83, on a joué pour la marche des beurs, mais on était plus attirés par l'action directe, les concerts dans la rue, les manifs, les squats, etc. Avec le recul, je crois que sur le racisme, par exemple, on n'utilisait pas les bonnes armes. Quand tu vois le chemin qu'ont fait Le Pen et ses idées depuis 25 ans, si tu le compares avec la progression de l'antifascisme radical, tu pleures. Je suis un peu cynique, mais l'autre jour, en voyant une affiche du scalp, j'avais mal de voir les mêmes mots, la même rhétorique, les mêmes images qu'il y a 20 ans, identiques. En plus, avec la montée du FN, venait la montée des fascisants de tout poil. Et dans toutes les villes, des clivages entre jeunes se formaient. Chacun choisissait son camp, ce qui donnait des concerts parfois un peu mouvementés. C'était chaud, parfois même trop chaud. Au départ, on avait une vision très restreinte du mouvement alternatif. Mais dès le début, on le revendiquait. C'est quelque chose qui se retrouvait sur tous les volets de notre activité, qu'elle soit artistique ou militante. Il n'était pas question pour nous de faire autrement que de sortir des disques de cette façon-là, avec un contrôle à tous les étages. Le prix, la façon de le faire. Artistiquement, il n'était pas question non plus qu'on dénature ou qu'on oriente notre création, même si on partait de loin. Mais ça concernait aussi l'organisation des concerts, leur prix. Par rapport à ça, on voulait toujours que ce soit le moins cher possible, le plus accessible possible. Et on avait aussi des exigences au niveau de la sécurité du public. On a été assez fiers d'ailleurs de notre coup quand on a joué au Printemps de Bourges avec les groupes du label, d'avoir pu négocier le prix du concert et imposer notre service d'ordre à nous. Les gens des assos qui organisaient les concerts étaient des gens dans le même bateau, sauf qu'on était derrière des guitares, on aurait très bien pu être à leur place. C'est d'ailleurs ce que font certains membres du groupe à la séparation. On était conscients de leur investissement, on baignait tous dans le même esprit. Une utopie collective, se prendre en main, faire les choses. Nous, on était quand même conscients qu'il se passait un truc, que les gens se prenaient en main pour organiser leurs concerts, sortir leurs disques, faire leurs t-shirts. L'histoire du groupe s'est quand même étalée sur 6-7 ans, et donc le mouvement alternatif n'était pas le même en 83 qu'en 88 ou 89. C'était hyper mouvement. Hyper mouvant, pardon. Et nous, on bougeait avec.
Bonsoir, vous me reconnaissez, c'est moi, c'est Nus. Je viens tout de la planète Vénus. J'arrive sur la Terre, muni de mes super pouvoirs. Attention, les feufas, il va y avoir du pétard. À travers l'espace, sur ma mobilette astrale. Toutes les caisses de keufs, ah mon dieu, quel scandale.
C'était les Thénardier, les amis. Je vous en ai déjà un petit peu parlé brièvement. On s'est déjà écouté quelques extraits pendant ces huit saisons de d'émissions censurées, les amis. Donc, c'est pas forcément un groupe inconnu pour tout le monde si vous êtes de fervents auditeurs et teuses d'émissions censurées. Voilà, les Thénardier. Alors, les Thénardier, ça s'écrit L-A-I-D, pas L-E-S. Et puis Thénardier, hein, comme dans Les Misérables de Victor Hugo. Voilà, alors les Thénardier, c'est on vient de s'écouter le morceau Sourire Kabyle qui est un extrait de le coup tranché Sourire Kabyle. C'est leur tout premier maxi 45 tours qui contient 6 titres, qui a été enregistré et mixé au studio du Temple et sorti en 2 tirages à 2200 exemplaires. Voilà. Ce maxi 45, Sourire Kabyle, il est sorti chez Samedi Soir, Dimanche Matin, ça c'est le nom du label, et distribué par New Rose. Il est sorti en 87, donc, puisque 85, l'année qui nous intéresse, les Thénardier n'avaient pas encore sorti quoi que ce soit au niveau discographique. Alors, bon, les Thénardier, ça va être... c'est dingue, le temps a disparu, hein, le voyage dans le temps, c'est le voyage dans le temps. Hein, le temps disparaît aussi bien que le fait de revenir 30 piges en arrière. Alors, bon, on verra. Hein, donc là, c'est vraiment le dernier... Le dernier groupe, on aura quand même réussi à passer 3 morceaux en une heure, ce qui est encore pire que le premier épisode de la salve précédente. Bon, peu importe. Pour les Thénardier, alors, le line-up, la formation d'origine, alors on retrouve au chant Buzz Barbar, à la basse Docteur Justice, à la guitare Mox, au clavier Simus. Non, pas Simus, Sinus, vous savez, comme les sinus du nez, là. Et puis aussi, le dernier, et pas des moindres, Robert Hobson. Robert Hobson, c'est le pseudo, en fait, de la boîte à rythme de les Thénardier. Alors, les Thénardier, ils viennent de Juvisy-sur-Orge, c'est dans l'Essonne. Formation en 84 et séparation en 90. Et je vous propose donc rapides extraits de l'interview de Doc Justice, interview par toujours Arnaud Rootboy, qui date du 15 mars 2007. Voilà. Alors, quand on a monté le groupe, on savait pas jouer. Le propulseur, ça a été François, le premier batteur des Brigades. C'était un très bon pote, il habitait la même banlieue que nous, en fait. François, son nom de scène, Tony Aigri, en rapport aux Brigades Rouges, Antonio Negri, hein, note du Arnaud, nous a fait plonger de rien au punk rock. Il nous a amené, l'attitude, le contenu, l'envie de faire un groupe était assez excitante. Mais on n'était pas un groupe de musiciens à la base. Il y a que Mox, le guitariste, qui avait une formation classique, et encore, c'était du violoncelle. Tout était politique, dans nos paroles. Pour nous, ça a été très simple. Ça a été on. Off. Quand on a rencontré Tony, on a vu ce qu'il faisait, les Brigades, les clashs, une attitude. Les thèmes évoqués par les Brigades nous parlaient, leur attitude aussi, mais pas forcément leur musique. Nous, on écoutait du punk, du reggae, du rap, et on a fait d'une pierre deux coups en faisant de la musique et en amenant un contenu politique. Les deux sont arrivés en même temps. Peut-être que certains d'entre nous étaient musiciens sans le savoir, mais par exemple, Buzz n'était pas chanteur, c'était un littéraire, quelqu'un qui avait un bon verbe, il était charismatique, mais c'était pas un chanteur. Mais personne n'aurait pu prendre sa place, c'était vraiment un groupe de copains. On s'est attribué les rôles de manière complètement arbitraire, moi à la basse, lui au chant, Mox à la gratte, une boîte à rythme et ensuite le frère de Mox, Sinus, au clavier. Dans un deuxième temps, sont arrivés des cuivres et sur le dernier maxi 45 tours, un deuxième chanteur, Romain. On s'est donc attribué les rôles de façon arbitraire, par affinité, et personne n'a jamais changé de place. Ça devait être la bonne de place. Au départ, Tony Aigri a joué 6 mois avec nous, mais on n'a jamais fait de scène ensemble. Nous, on était entre le rap, les Stranglers, Killing Joke, les Clash, les Specials. C'était du punk, du reggae, du hip-hop, de la new wave. On a mixé un peu tout ça, ça a donné ce qu'on connaît. J'étais complètement autodidacte et Mox, le guitariste, lui, avait une formation classique. On avait donc un mode de création musicale un peu particulier. Alors, j'arrivais avec une ligne de basse et lui faisait les arrangements. Comme il avait presque l'oreille absolue, il inventait sur place, des accords qui correspondaient à ce que je lui ramenais. Je faisais mon truc et qui était parfois dissonant et lui se calait dessus en trouvant des accords. C'est aussi ce qui a donné ce côté un peu bizarre. À part pour le dernier album où on est un petit peu plus rentré dans le rang en faisant du reggae et du hip-hop. Le premier disque, on le sort chez Samedi Soir, Dimanche Matin. C'était des copains de Tony Aigri. Ils étaient très liés aux Brigades, à Vlad. Je pense qu'ils sont intéressés à nous plus pour notre radicalité et notre attitude que sur les aspects musicaux, même si je pense que notre côté atypique leur plaisait. Ils nous ont proposé une coproduction où on se chargeait de payer le studio et eux, le pressage. Ils nous ont laissé une totale liberté sur les paroles, la musique et la création de la pochette. Sur le livret qui accompagnait le disque, on a indiqué la facture, on mettait les prix au plus bas, uniquement pour se rembourser. La démarche était là. Là-dessus, on s'est beaucoup fait critiquer par les autres groupes. Parce qu'on était étudiants, parce qu'on avait dit qu'on voulait pas vivre de notre musique. On l'assumait, on avait d'autres objectifs professionnels. Pour nous, la musique, c'était pour le plaisir et aussi un vecteur politique. On faisait passer un message, on se faisait plaisir et on voulait pas en faire un business. Le premier disque, on le vendait même à perte, alors volontairement, pour que ce soit pas cher et ne pas faire un business de notre, entre guillemets, de notre art. On s'est fait traiter de petits bourgeois, les provenances sociales des membres du groupe étaient différentes, il y avait effectivement des petits bourgeois, mais aussi des vrais fils de prolo, c'était pas ça le souci. Si les Thénardier existaient maintenant, les morceaux seraient free online. Ce premier album, je le revendique, j'aime beaucoup Marquis de Sade, Orchestre Rouge, et c'était dans la lignée de la new wave post-punk immédiat. On a fait ce choix de musique un peu torturée. L'album a été bien reçu. C'était musicalement inclassifiable, mais on a eu quand même très bonne presse. On s'auto-produisait, on était étudiants. On n'avait pas beaucoup de thunes, donc on pouvait faire que 6 ou 7 morceaux à chaque fois. C'est aussi simple que ça. Et franchement, on n'était pas des stacanovistes de la création musicale. Vu nos impératifs divers et variés, on n'a pas tourné énormément. On n'avait pas d'impératif de rendement parce qu'on comptait pas là-dessus pour vivre. 90% de nos concerts ont été des concerts de soutien au Scalp, à des associations, des causes politiques. C'était une vraie volonté. À l'époque, si un type organisait un festival alternatif, tous les groupes rouges ou noirs avec leurs textes politico-alternatifs répondaient présents dans l'espoir de quelques subsides. Par contre, si c'était un concert de soutien, donc non rémunéré, il y avait déjà beaucoup moins de monde. C'est pas la soutane qui fait le curé. Un groupe comme Ludwig von 88, par exemple, qui avait pas une étiquette de groupe politique et vivait de sa musique, a, lui, toujours répondu présent. On était dans un contexte, avec la montée de Le Pen, entre autres, où il fallait qu'on milite, absolument. On était sur des problématiques sociales, pas idéologiques, comme beaucoup à ce moment-là. Tu trouvais des anarches chez les Redskins et des rouges chez les autonomes. Les Thénardier étaient plus dans une logique de résistance que dans une logique de construction. Je sais pas si on a milité réellement, en tout cas on en a eu l'impression. On était à 50% rebeux, les Thénardier 50% rebeux, 100% relous, et dans une scène surtout composée de petits blancs. On était clairement à gauche, mais peut-être pas autant que certains ont voulu le croire. On accompagnait des gens qui étaient très à gauche sur des thèmes qu'on avait en commun. On n'a rien inventé, on n'a rien découvert. Faut avoir l'honnêteté de dire qu'on nous a tout présenté sur un plateau et qu'on s'est servi. Nos thèmes étaient pas si à gauche que ça. Même si on avait un discours assez radical pour marquer les esprits, rétrospectivement, je trouve pas qu'on était aussi radicaux que ça. Les expulsions, l'antifascisme, le colonialisme, le problème palestinien, etc. C'est des thèmes qui sont encore d'actualité avec un petit décalage. Quand on relit les textes, ça peut paraître un peu réchauffé. Mais c'est parce que ça a 20 ans d'âge. Et du coup, en 2002, quand Le Pen s'est retrouvé au second tour, nous, on n'est pas tombés des nues. Il a fallu que la France se regarde un petit peu en face. Et elle a rougi d'ailleurs. Wouhou! Vas-y, monte les potards, mon Lulu. Oh, mais c'est quoi ça? C'est déjà le générique de fin? Mais il nous restait encore combien? 1, 2, 3, 3 groupes. La vache. Bon, j'étais pas sûr de combien d'épisodes on allait se faire autour du sujet il y a 30 piges en 85. Maintenant, je le sais, ça sera pas une duologie, ça sera une trilogie et ça sera une bilogie. Oh, putain. Ouh, c'était physique. Alors j'espère, voilà, hein, que c'était pas trop rébarbatif. Heureusement que toutes les émissions sont pas comme ça. Dans tous les cas, moi j'ai pris vraiment un gros panard à préparer tout ça. Suite, donc, la semaine prochaine, les amis. On se retrouve donc pour le deuxième épisode sur 3 avec une autre sélection de groupes et puis encore d'autres. Eh ben, j'ai même plus l'habitude de parler pendant le générique. C'est le bordel. Merci d'avoir esgourdé l'émission censurée dans tous les cas. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, si vous êtes toujours là, alors là, chapeau bas, toute mon admiration, parce que vous avez eu un sacré courage, bravo, merci chère teuse. On se retrouve donc, c'était Lucas les techniques, c'est la fin du générique, ah non j'ai eu peur. Merci mon poteau, comme d'habitude, ça fait longtemps que je t'ai pas remercié à la fin de l'émission. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. On se retrouve donc, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures alternatives, toujours 30 ans en arrière. Bon, émission censurée, rediffusée, tout ça, sur RCN, sur Radio Campus Lorraine aussi. www.rcn-radio.org, vous pouvez retrouver les podcasts et les télécharger, tout ça. L'intégrale d'émissions censurées, c'est toujours le www.rcn-radio. Non, www.davidvincentetsesmutants.com. Je vais aller me coucher, moi, les amis. Hein, et en attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine, aujourd'hui plus que jamais, mais bien moins que demain. Vive la résistance et vive la grève générale. Merci, bonsoir. Oh, 20 Dieu.